Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, un très très beau casting. On va démarrer dans une poignée de secondes avec Sophia Issaidi qui sera avec nous pour parler des combattantes. Elle prodiguera également ses premiers conseils aux nouveaux stars académiciens qui rentreront au château le 15 octobre prochain. On va parler également de Boomerang, la fiction événement qui sera diffusée mercredi sur France 2 avec Christian François, le réalisateur, accompagné de Laurent Bateau et Bruno Salomon qui seront nos invités. Clémence Lassalas également sera notre invitée alias Charlie dans Demain nous appartient. On la recevra évidemment avec grand plaisir. Et on reparlera aussi de Syndrome E avec Bérangère Krief qui viendra nous voir. Et puis enfin, spécial Miskina la pauvre, la fiction événement d'Amazon Prime fiction française avec les créateurs Anthony Marciano et Melra Media. Et on aura l'occasion de recevoir également les comédiens Victor Belmondo, Xavier Lacaille et Chirine Boutella. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer encore une fois aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur cette semaine télé, c'est toujours Les Combattantes, la suite. Et on va continuer à mettre, évidemment, cette série à l'honneur à travers ses personnages et celui de Caroline avec Sophia Issaidi qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Sophia.
Bonjour.
Quel plaisir de te retrouver avec cette série à grand spectacle. C'est toujours un bonheur pour une comédienne de se retrouver dans une fiction comme ça, à grand spectacle pour le coup.
C'est une chance, carrément. C'est vraiment une chance d'avoir la possibilité de connaître, de savoir ce que c'est d'avoir autant de budget, que ce soit par exemple pour la promotion ou que ce soit sur le tournage. On a quand même vécu des émotions extraordinaires d'avoir autant de figurants, d'avoir autant de costumes, d'avoir autant de reconstitutions.
Aide pour s'imprégner de l'époque.
Ah, évidemment, bien sûr. Il y a un travail en moins à faire de projection et on y est quoi. On se réveille le matin, on y est. C'est peut-être ce que j'avais envie d'explorer quand j'avais envie de faire un film d'époque. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'en faire un. Je pense que c'était ça que je voulais. C'était savoir ce que ça fait de se réveiller et d'un coup d'être projeté dans une époque qui n'est pas la sienne.
Alors on va évoquer Caroline qu'on a découvert déjà dans les premiers épisodes. Caroline qui voit son mari partir à la guerre et qui se retrouve seule face à, évidemment aux employés qui se retrouvent eux aussi partis à la guerre et donc à leur femme pour tenir l'entreprise et qui se retrouve aussi avec une belle-mère qui va pas du tout l'aider, on va dire qu'il va être vraiment dynamique. Hein.
C'est joliment dit. Oui, oui, elle se retrouve dans l'adversité totale. Et ça raconte ce qui s'est passé vraiment à ce moment-là dans la vie des femmes, c'est-à-dire ce moment où elles ont dû vraiment prendre la place des hommes. Donc c'est ce qui se passe. Les hommes de l'usine s'en vont et les femmes prennent leur place pour continuer à fabriquer ce que l'usine fabrique. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Ça, ça m'intéresse. Je trouve ça très intéressant de vraiment de montrer ce que les femmes ont dû faire à ce moment-là, apprendre. Avoir des responsabilités qu'elle n'avait pas soupçonné avoir un jour. Et puis à côté, bien sûr, sa belle famille. Elle est enfermée, Caroline. Elle est enfermée dans sa condition de femme de l'époque. Elle est enfermée dans sa famille. Elle est enfermée par rapport au regard qu'on peut avoir sur elle, que les hommes... Elle est étriquée dans cette vie qui l'empêche de s'assumer, d'être elle-même. Et c'est tout ce qui va se passer pendant cette série. C'est toute cette libération. Et c'est ce qui m'a plu vraiment dans ce rôle. C'est comment, à un moment donné, on devient soi-même réellement. On s'impose.
Son beau-frère aussi va venir mettre un peu le feu aux poudres dans tout ça aussi. Il va tenter de... C'est compliqué ce que les femmes vivaient pendant cette guerre. Comment tu t'es préparée, toi, au rôle de Caroline? T'as regardé des reportages aussi avant? T'as lu des livres? Comment t'as fait?
J'ai regardé pas mal de documentaires parce que, justement... Il y a très peu de films qui ont été faits sur ça, sur les femmes. Et moi, j'adore regarder beaucoup de films avant de commencer un tournage. Et là, je me suis retrouvée avec très, très peu de matière. Donc, je me suis retournée vers les documentaires, j'ai lu. Mais c'est vrai que le vrai travail que j'ai fait était un travail personnel. C'est toujours ce travail que je fais avant les tournages. C'est une introspection pour aller chercher à l'intérieur ce que je vais donner à ce rôle-là. Et le vrai travail a été, je pense, plus celui-ci qu'un travail... C'est pas un documentaire ce qu'on fait, hein. C'est vraiment une fiction, et on a décidé aussi d'être moderne dans cette fiction, d'y amener beaucoup beaucoup de modernité. Donc le vrai travail que j'ai fait, c'était d'aller plutôt trouver ma vérité pour après la donner et l'offrir à la caméra.
Et s'imprégner de Caroline, évidemment. On découvre qu'elle a aussi un lien avec le personnage d'Audrey Fleurot dans la fiction.
Oui, elle a un lien. Moi, en tant qu'actrice, c'est quelque chose qui était intéressant pour moi. C'était vraiment une histoire en plus qu'on raconte pas tout de suite. Donc c'est quelque chose qui se joue à l'intérieur. Et c'était très intéressant d'apporter ça encore en plus, une autre couche de difficultés, de choses à devoir accepter dans sa vie. Après, je veux pas trop en parler parce que je pour ceux qui n'ont
encore quatre épisodes, on a quand même quatre épisodes encore à voir aussi.
Qui vont le regarder en replay. Alors moi, je ne veux pas balancer, mais c'est vrai que c'est une relation qui est très intéressante.
Bon, Sophia, quel a été ton plus grand moment, peut-être sur le tournage? Est-ce qu'il y a une scène particulière pour toi, peut-être éprouvante, ou peut-être drôle à un moment donné aussi, hein, parce que il doit y avoir des moments aussi que quand on tourne une série comme ça, il y a besoin aussi de libérer des soupapes.
Hein. Oui, il y en a eu beaucoup, parce qu'il y a eu quand même 7 mois de tournage, un tournage très intense. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées. C'est une scène dans laquelle j'ai rarement autant pleuré. J'en ai deux, hein, dans la série. J'ai rarement autant pleuré. Alors finalement, elle n'a pas été montée parce que il fallait faire des choix. Mais je me souviens de ce moment où j'ai eu plusieurs. J'ai vraiment craqué. Et c'est très spécial quand on a une émotion si vraie. Je me suis laissée surprendre, en fait, par une émotion très, très forte. Et ça a duré longtemps parce que la scène a duré plusieurs heures et pendant plusieurs heures, je sais pas ce qu'il y a vraiment, voilà, c'est des moments assez, assez magiques, durs, mais magiques en même temps.
Parce que Caroline est souvent dans la retenue, c'est un personnage qu'on sent tout le temps dans la retenue, qui cache les émotions, qui est vraiment un personnage qui a du mal à montrer les choses, hein, finalement. Tout est à l'intérieur, hein.
Qui ne montre pas. C'est ce qui a été très dur pour moi, pour l'actrice pendant le tournage et qui était très intéressant en même temps. C'était ça. C'était cette retenue que j'ai moi, dans la vie. Donc, il a fallu que je retienne énormément le naturel, ce qui sort. Et ça a été, c'est très fatigant. On a l'impression que les rôles qui sont fatigants sont ceux qui sont vers l'extérieur, très énergiques. Mais c'est tout aussi fatigant de retenir, de garder tout à l'intérieur. Il y a des fois où je terminais, je tombais par terre de fatigue, d'avoir retenu le corps, d'avoir retenu les émotions. On ne lui permet pas de s'exprimer. Donc elle garde jusqu'au moment donné où ce sera plus possible. C'est tout l'intérêt, moi, de cette libération de ce personnage, cette libération intérieure. Mais c'est vrai que au début de la série, c'est quelqu'un qui retient, qui garde tout parce qu'elle ne peut
pas. Quand son mari part au front.
Oui, bien sûr, tout. C'est un mode de retenue. Voilà, on retient tout, les émotions, quelles qu'elles soient. Ça a été un vrai challenge pour moi.
C'est familial un peu, hein, l'histoire, parce que Sandrine Bonner aussi, son personnage retient beaucoup. Elle paraît très fermée, très sévère, cette belle-mère. Hein.
Oui.
Auprès d'elle, tu vas trouver du réconfort. Hein.
Non, bien sûr, ça c'est sûr. Faut pas généraliser, mais je pense que la bourgeoisie, la haute bourgeoisie, à l'époque, c'était quelque chose qui était assez commun. C'était cette retenue. Voilà, on retient, on ne montre pas.
Les projets, Sophia, pour la suite?
Alors déjà là, en sortie, on a le prochain film d'Olivier Marchal qui sort en novembre sur Prime Video, Amazon. Je suis très contente d'avoir retravaillé avec Olivier et je suis très fière qu'il m'ait fait confiance pour ce rôle-là. Et j'ai vraiment hâte que ça sorte. Alors, un grand écart total, hein, on est dans un autre univers, ce que j'adore aussi, hein, c'est pour ça que j'adore ce métier. On passe d'un coup d'une bourgeoise en 1914 à une capitaine en 2022, quoi. C'est super.
Oui, c'est dans l'univers de la police, évidemment, encore.
Ouais, et puis dans un univers assez dur. C'est pour ça que je suis très heureuse d'avoir de faire partie maintenant de cet univers d'Olivier Marchal, parce que j'adore ses films depuis toujours. J'adore la manière qu'il a de raconter ses histoires, de la manière qu'il a de montrer la noirceur et la difficulté.
Sans concession.
Sans concession. Et j'ai été contente d'aller essayer ce genre d'exercice. Alors c'était un travail complètement différent, très difficile aussi. Ce film-là, ça a été moi de changer mon prisme sur la vie. Moi, je suis plutôt très positive. Et le rôle de Sarah est quelqu'un de plutôt négatif. Et donc ça a été le travail en amont a été celui de changer la manière de voir les choses. Et les semaines qui ont précédé, ça a été vraiment ça. Ça a été de changer de mode, quoi. Et d'entrer dans ce mode-là à fond. Et c'était pas facile. Mais c'était très intéressant, c'est toujours pareil. Moi, j'adore les rôles de composition. J'adore aller chercher des choses qui sont éloignées de moi. Donc, que ce soit pour Caroline, justement, cette retenue-là, ou bien ce pessimisme, cette noirceur pour le rôle de Sarah. C'est très intéressant.
2023?
Alors, 2023, j'espère de la scène.
Ah, la musique?
Ou pas, mais
du théâtre.
Voilà. Donc on est en discussion là, mais j'ai vraiment envie d'aller retrouver le public. Ça me manque beaucoup. Chanter, évidemment, j'adorerais aussi. J'ai rechanté là d'ailleurs. Ibrahim Alouf m'a invité très gentiment à chanter avec lui à deux festivals, dont Jazz in Marciac cet été. J'ai retrouvé la scène, j'ai retrouvé le micro, j'ai retrouvé le public. C'est des émotions indescriptibles. Hein, ça c'est évident. Donc que ce soit avec la musique ou pas, j'ai vraiment hâte de retrouver la scène et de continuer des aventures. Que ce soit aussi cinéma, sur les plateformes, à la télé. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir de belles rencontres avec des merveilleux réalisateurs et des rôles qui me permettent à chaque fois d'aller explorer quelque chose de différent.
On espère te retrouver peut-être invité sur le plateau de la Starac Academy. C'est aussi le grand événement de cet automne, le retour de la Starac. Quel conseil t'auras envie de donner là aux nouveaux qui vont entrer dans le château? Parce qu'en plus, la Starac fait son retour pas à moitié, puisqu'il revient au château de Damary-les-Lys. Ça doit te faire un petit pincement de voir des nouveaux qui vont revenir au château presque 20 ans après, quoi.
20 ans après, hein. Oui, ça va être émouvant, je pense, de retrouver le château, les images du château. Après, je pense que ça va être différent d'avant. Il y a quand même les réseaux sociaux qui sont arrivés entre-temps. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont un peu différents de ce qu'on était nous il y a 20 ans.
Ils sont peut-être plus préparés justement à ça.
Je pense qu'ils sont plus préparés. Donc je pense que ce sera quand même un peu différent de ce qu'on a pu voir. Après, moi la Starac, c'est le début de tout. Hein, donc je suis ravie de me dire qu'il y a des gamins qui vont peut-être commencer à réaliser leurs rêves en faisant cette émission.
Tu leur dirais là.
C'est vraiment de profiter parce que ça passe très très vite.
Rester eux-mêmes surtout aussi.
D'être authentique. Moi, c'est pour moi le meilleur conseil qu'on peut donner dans ce métier et dans la vie. Hein. Dans n'importe quel métier, finalement, il fonctionne bien. Hein, c'est d'être authentique, de vraiment rester soi-même. Et c'est une des choses les plus difficiles à faire dans ce métier.
Mais toi, t'as réussi, ça fait 20 ans que tu réussis, donc t'es toujours là. Et ça, voilà, c'est un bel exemple de réussite. Et t'es toujours là aussi dans l'émission quand on t'appelle. Donc merci pour ça aussi, Sophia.
Oui, merci.
Les combattantes, c'est ce soir, oui. Sur TF1. On suit évidemment la suite au mois de novembre. On te retrouvera donc dans le film d'Olivier Marchal sur Prime Vidéo, à ne pas manquer. Et on te dit à très bientôt, en tout cas, Sophia.
Avec grand plaisir, à bientôt, merci à vous.
Nous allons recevoir une distinction par le président Poincaré lui-même.
Les combattantes continuent lundi prochain sur TF1.
Je ne peux pas trahir mon pays. Le voir tous les jours, j'y arriverai pas.
Marcel, dans 24 heures, je suis au front. Sauf s'il se passe quelque chose pour ta belle-sœur.
Colin... Je voulais vous dire...
Lâchez-moi, allez-vous-en!
Il faut jamais qu'il apprenne qui je suis, jamais.
Reste là. Laisse-moi. Disparais comme il y a 10 ans. Retourne dans ta belle maison, dans ta vie de bourgeoise dont tu rêvais tant.
A tout de suite, on va parler de Boomerang avec Christian François, Laurent Bateau, Bruno Salomon. Demain nous appartient avec Clémence Lassalas. Et on va parler aussi avec Bérangère Criette de Syndrome E. Alors à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Quand le printemps, c'est quand? C'est quand le soleil et les grands ciels, l'espoir et le beau temps.
Dis, c'est quand? Dans combien de temps? Est-ce demain, après-demain? Ça fait trop longtemps qu'on attend.
Est-ce bientôt?
Jamais.
Mais quand?
Quand? L'égalité, quand? C'est quand l'union de celles et ceux divisés, pas si différents.
Dis, c'est quand? Mais qui nous comprend? Quelle que soit l'allure, l'apparence, sache que le cœur en vaut la danse.
Y'a que des gagnants dans ce
camp. La conscience quand? Acte manqué, inassumé, en mesure-t-on les conséquences?
Oui, mais quand?
Reste-t-il du temps? Doit-on attendre de la science ou bien tout miser sur la chance? Ne plus jamais
demander quand. Mais nous c'est maintenant. Mais nous c'est maintenant. Nous c'est maintenant. T'es maintenant, maintenant. Tout le temps c'est urgent. Mais nous c'est maintenant. On n'a plus le temps. Pour penser nos pensées, nos passés. Oui, mais prêt à tout recommencer. Non, maintenant.
Quand la paix c'est pour quand?
C'est dans nos livres et nos chansons.
Mais c'est jamais là pour de bon.
Dis c'est quand? Mais qui nous entend? L'accord, l'harmonie, la raison.
N'est-ce qu'un rêve, une illusion?
La fin du sang des gens.
Mais quand? La sagesse quand? L'âge de raison, l'âge de courage.
Mais qui sommes-nous vraiment? Dis c'est
quand? Le discernement, la prudence avant le jugement, un jour enfin plus tolérant. Oui, mais
quand? La justice quand?
Combien de discours en avant, demi-tour?
Quand? Moi j'ai plus le temps.
Les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube
et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Les coups de cœur télé consacrés à la maison d'en face. On continue à parler de cette géniale série, franchement, qui est en train de se dérouler tranquillement chaque mardi sur M6 avec aujourd'hui Caterina Murino qui est avec nous. Bonjour Caterina.
Bonjour à tous.
Merci d'être là. Et Marc Ruchman également, qu'on a essayé d'avoir désespérément pour manipulation. Mais il était à l'étranger, il était pris. Et ben là, il est là. Oui, il est là pour la maison d'en face. Bonjour Marc.
Bonjour. Je suis là en chair et en os.
Exactement.
Il était sous un cocotier, hein, mais bon, ça, j'ai rien dit.
Ouais, mais on va pas tout dire. On va pas tout dire non plus quand même. Mais ah, c'est pareil, quelle série manipulation, c'était incroyable cette série,
ouais,
Marc.
C'est sympa, ouais, c'est sympa.
Alors là, la maison d'en face, on est sur un thriller, c'est ce qu'on disait la semaine dernière avec Lionel notamment et Julie. On est vraiment sur un thriller, sur de la romance, il y a du suspense, il y a de tout dans cette série. C'est ce qui vous a plu en premier pour interpréter Yanis et Livia quand vous avez lu le scénario?
Absolument, le deuil, la trahison, l'adultère, l'échangisme, plein de sujets effectivement qui sont attraits au thriller. Ouais, c'est assez palpitant la lecture, donc ça donne envie de s'y coller.
D'y participer, exactement. Ouais. C'est le rôle de Livia qui part dans un couple parfait, avec une complicité extraordinaire avec son mari, un joli job pour les deux, un fils parfait, dans une villa magnifique. Donc tout est nickel. Et petit à petit, le monde de Livia, donc le monde du couple chevalier, va se briser autour d'elle. Donc c'est ça la chose qui m'a surtout séduite, de pouvoir interpréter un rôle qui part tout parfait et après, bien sûr, tout son monde s'écrase autour d'elle.
C'est cool, on y suit. Alors dans les deux premiers épisodes, pour ceux qui ont peut-être vu les deux premiers, mais ceux surtout qui ne les ont pas vus, ça commence en fait par une fête des voisins chaque épisode, où on en dévoile un petit peu plus à chaque épisode. de cette fête des voisins. Que se passe-t-il? On sent qu'il se passe un drame, évidemment, cette soirée-là. Et on repart en arrière au fur et à mesure avec un compte à rebours qui nous permet de comprendre petit à petit pourquoi on en arrive à ce qu'on ne sait pas encore. Voilà, c'est bien résumé ça, hein. C'est... Hein, on est pas mal.
Ah ouais, vous êtes vachement meilleur que moi, c'est sûr.
Et donc vous interprétez tous les deux deux voisins. Alors toi Marc, tu es en couple avec Julie Debona dans la série, et Katerina avec Thierry Neuvik. Et donc ces deux voisins là vont se lier d'amitié. Il va y avoir aussi on va dire une relation sulfureuse entre ces deux couples là, puisque là on a un couple qui souffre quand même. Le couple incarné par Julie et Marc est quand même un couple qui souffre. On peut pas dire vraiment que les voisins en profitent de cette souffrance, mais vont aller s'engouffrer peut-être dans une faille pour aller justement aller assouvir peut-être des fantasmes. Voilà, c'est aussi un peu ça.
Bah, je trouve vous êtes méchants sous ma couple de Livia et Stéphane. Je trouve pas du tout. Livia et Stéphane, ils sont très bienveillants, sont des très bons voisins qui cherchent d'aider avec. Sans blague, là je blague, mais là en fait ce que je vois moi, par rapport à ce que j'ai interprété, après je sais pas ce qui s'est retourné sur l'écran, c'est vraiment qu'Olivia est infirmière, comme vous avez bien vu dans les premiers deux épisodes, et elle cherche d'être vraiment très proche de ce couple qui les pauvres a perdu l'unique enfant qu'il avait. Elle est vraiment dans la générosité tout le temps dans sa vie, dans son job.
Olivia, oui, aucun problème, mais Stéphane il a peut-être pas tout à fait les bonnes intentions tout le temps, lui.
Lui, on va dire qu'il est pas tout réglo-réglo, et je vais découvrir ça petit à petit. Vous allez découvrir avec moi, avec Olivia, avec les spectateurs, qu'est-ce qui se passait dans la vie de tous les cachettes, surtout de Stéphane, dans tout le sens du terme. Et donc, c'est ça qu'on s'est pas vraiment introduit dans la vie d'eux pour les briser ou pour faire quelque chose. C'était très bienveillant d'arriver à vous sortir de votre malheur pour une soirée sympathique.
Absolument.
Et si après ta femme elle est malade, c'est pas ma faute, hein. Je suis désolée.
C'est vrai.
C'est vrai. Comment vous définiriez vos personnages tous les deux? Comment on pourrait définir Yanis?
Yanis, je crois que c'est quelqu'un qui est assez droit, qui est assez raisonnable, pas très expansif. C'est pas quelqu'un d'extrêmement joyeux, mais c'est quelqu'un d'heureux qui sait faire des choix, qui va se découvrir aussi. Sous d'autres aspects, quoi, qui va accepter des parties de lui assez différentes. Il ne supporte pas les trahisons et les choses cachées, justement, quoi.
Là, il va être servi.
Transparent, voilà, il va être servi et il va pas mal manger, quoi.
Oui, parce que même si effectivement, voilà, on parlait de cette relation, on va dire le personnage de Julie Debona va aussi profiter pour tendre quelques pièges dans cette relation qui va pas être de tout repos non plus, et qui va mettre le couple avec Yanis à mal aussi. Il y a une souffrance évidemment de ce couple suite à la perte de cet enfant, et un couple qui se trouve être en début de reconstruction mais difficile.
Absolument, et d'ailleurs on ne perçoit pas réellement le fait que Yanis n'ait pas eu le temps de faire son deuil aussi de cet enfant, parce qu'il est tout de suite à la charge de sa femme, qui, elle, est complètement détruite, et il a ce besoin impératif d'essayer de la remettre debout et d'essayer de faire en sorte que la vie reprenne un peu son cours.
Et lui, de se remettre debout aussi, de cette épreuve.
Je crois qu'à ce moment-là, il n'a pas la place d'y penser, parce qu'il se sent responsable aussi de tout ça, et qu'effectivement, il ne prend pas en considération sa peine et son propre trauma, quoi, sa propre douleur. Donc effectivement, ça va venir beaucoup plus tard dans la série, où tout ça va commencer à se disloquer totalement. Et d'ailleurs, ils, dans ce couple, ils vivent tous les deux d'une manière complètement différente le deuil. Lui va essayer d'y remettre de la vie, alors que Julie va partir dans, enfin le personnage de Julie, pardon, va partir dans quelque chose de beaucoup plus destructeur, sans le savoir, quoi.
Comment on pourrait définir Olivia, du coup?
Un ange à qui briseront les ailes.
À qui on brise les ailes?
Bah oui, parce qu'elle, comme j'ai dit, elle est très bienveillante avec tout le monde. Elle essaye vraiment d'aider sa meilleure copine.
Elle va le payer cher.
Elle va payer cher. On va découvrir, vous n'avez pas encore vu, mais vous allez découvrir que même sa meilleure amie, elle n'est pas tout à fait nette. Après, mon mari aussi, ma voisine à qui j'ai aidé, et j'ai dédié beaucoup de temps. Donc, nécessairement, tout se brise autour d'elle. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment bienveillant, quelqu'un qui cherche d'aider tout le monde et à la fin, elle prend plein gueule tout le temps jusqu'à la fin.
C'est un final saut de tension qui nous attend, on peut dire, je crois, alors, hein, du coup.
Oui, on peut le dire.
Surtout, ouais. Il y a des choses qui s'enchaînent. Il y a des choses qui peuvent vraiment arriver. Donc, on peut pas dire, ah, c'est une fiction. Non, c'est vraiment des choses qui, malheureusement, peuvent arriver vraiment dans la vie. Et donc, c'est quelque chose de très intéressant, comment, quand quelque chose, ça tourne mal dans la vie de quelqu'un, tout se brise autour d'elle.
Dernière petite chose quand même, parce que c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu cette série. Dès les premiers décors, dès les premières minutes, on a l'impression d'être embarqué dans un Desperate Housewives français. Vous ne pouviez pas ne pas y penser quand vous avez été embarqué dans ces décors incroyables, dans cette résidence finalement, hein.
À Muncie, donc une chose négative, c'est que pour arriver à Muncie sans trafic à minuit, c'est 1 heure de Paris. Et donc, avec un peu de trafic, on s'est tapé entre 1h30 et 3h/4 pour aller retour. Donc, tous les jours, pendant 4 mois. Ok, on fait pas les jobs les plus compliqués du monde, hein. On le sait très bien, mais c'était un peu pas très, on va dire, confortable comme des autres tournages. Donc ça, même si le décor, bien sûr, était...
Le décor en valait la chandelle, hein, quand même.
Oui, c'est exactement...
Ouais, bah ça marchait bien, justement.
Et surtout, je trouve que le décor de Muncie, c'est vraiment un personnage. C'est les 5e personnage de la série. C'est vraiment très important.
C'est complètement dingue. Ce décor fait vraiment penser à Desperate. On a vraiment, puis cette histoire entre voisins, voilà, fait penser, peut ne faire que penser en tout cas à ça, c'est sûr. Merci à tous les deux d'être passés nous voir. Merci Marc, merci Katerina. On vous retrouve dans Maison d'en face. C'est demain soir sur M6. On continue à déguster cette série. Et puis si vous êtes impatient et que vous avez Salto, faites-vous le final dans la foulée. Vous allez passer une bonne soirée. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup et bonne vision de la maison. Il
y a quelqu'un dans le coffre.
J'ai trouvé que ça.
C'est parfait. Merci. Allez.
Mais qu'est-ce qui se passe ici?
On sait pas. Mais il y a au moins un mort et un blessé grave.
On sait pas ce qui s'est passé, on évite de penser au pire. Je suis sûre que tes parents vont bien.
Marguerite, vous n'avez pas vu mon mari?
Cœur télé consacré au téléfilm Boomerang qui va être diffusé cette semaine sur France 2. On a la chance d'avoir avec nous le réalisateur Christian François qui est notre invité. Bonjour Christian.
Bonjour, merci.
Merci d'être avec nous et l'ambiance donc aujourd'hui est assurée par monsieur Bruno Salomon qui est avec nous, mais quand on va évoquer le sujet il va moins ambiancer. Bonjour mon cher Bruno.
Pourquoi? Non mais attention, je m'auto-ambiance. Wouhou, Bruno Salomon, oui. Ça va Alain? Ça se passe bien?
Oui, ça va super bien, puis tellement heureux de te retrouver mon cher Bruno. Et avec le Covid, il y avait au moins 2 ans qu'on ne s'était pas vu et tu me manquais déjà.
C'est vrai.
En tout cas tu nous as offert de bien belles choses entre les deux, hein. Il y a eu mention particulière, on a eu le cadeau de Noël, tant attendu, fais pas ci, fais pas ça. Mais là on est sur un tout autre sujet, Christian, que vous avez réalisé mais aussi coécrit. Boomerang, c'est l'histoire d'une agression sexuelle, d'un déni, d'une mise en lumière. Pas traité de façon pathos aussi, c'est ça que j'ai aimé. On est vraiment sur un film malgré tout lumineux. Ça, c'est quand même assez magique d'avoir réussi quand même ce tour de force malgré tout à l'écriture et à la réale.
Alors, ça commence à l'écriture, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on a voulu, Jean Perrasson et moi, puisqu'on a écrit à deux, traiter le sujet sans tomber justement dans une lourdeur du pathos, des choses qui... appuie le sujet et le rendre presque inaudible au fond. On a voulu que ça soit comme la vie. C'est-à-dire les gens vivent des choses, donc c'est pas parce qu'ils sont en train d'être embarqués dans un drame qu'ils ne continuent pas à rire. Quand on est dans la vie et qu'on vit des choses difficiles, on peut boire un coup avec des potes et tout à coup on rit et puis on rit bien aux enterrements. Hein. Donc voilà. Hein. Voilà. Alors là, c'est pas un enterrement, c'est le parcours d'un homme, Bruno en l'occurrence, qui va petit à petit se rendre compte que franchement, ce qu'il a fait, c'était pas ce qu'il fallait faire. Voilà.
Il a franchi la ligne rouge, en quelque sorte. Il ne s'en aperçoit pas tout de suite. On est vraiment sur un personnage, Quentin, qui est dans le déni total de cette histoire. Comment tu t'es préparé à ce rôle? Qu'est-ce qui t'a séduit au premier abord, Bruno?
Comment tu t'es préparé? Oui, c'est terrible. Non, tu te prépares pas à faire un rôle comme ça. Non, ce qui m'a séduit déjà, c'est l'écriture. Moi, je marche énormément au scénario et le parcours du méchant. Au début, j'avais un peu peur que justement que ça parte dans le une sorte de caricature. Et puis, j'ai bien aimé. Je vais pas sans spoiler l'histoire, mais j'ai bien aimé qu'au final, il soit quand même touchant et
presque qu'on le comprenne parce qu'il est sincère. Bizarrement, lui, il pensait que vraiment qu'elle était d'accord. Donc c'est là où on se dit, tiens, est-ce que ça arrive, ce genre de situation? Alors apparemment Christian disait que c'est une fiction totale, mais ça arrive que des mecs se disent, bah non, bah elle veut là, vu qu'elle m'a souri, vu comment elle me regarde. Et d'ailleurs souvent on entend me dire, t'as vu comment elle m'allume, la meuf, elle juste dit bonjour et puis voilà. Bon, inversement aussi, hein, peut y avoir des filles qui se font des films, hein, si ça peut arriver. On peut être tous un petit peu dans le rire. Et j'ai bien aimé justement le parcours de mon personnage. Et alors la cerise sur le gâteau, c'est quand j'ai eu Christian au téléphone. J'avais jamais été accueilli comme ça par quelqu'un, un réalisateur, parce que souvent on appelle les réalisateurs, alors voilà, j'ai un projet machin, et Christian c'était, oh Bruno, ça fait plaisir. Alors je me dis, mais c'est qui ce mec, il est génial. Et c'était ça tout le temps. Christian, c'est de l'enthousiasme, c'est une forte personnalité. Donc quand il aime, il aime, quand il aime pas, il aime pas, il le dit. Mais au moins il y a pas de, enfin voilà, enfin c'est hyper agréable, enfin c'est une vraie rencontre en tout cas pour moi.
Alors jusqu'au jour où évidemment cette histoire va se retourner un petit peu et que évidemment il faut une grande gueule dans une entreprise, et là évidemment qui peut mieux que l'incarner que Corinne Maziero, et là c'est aussi le meilleur choix possible, mon cher Christian.
Oui, ça a personne d'autre je pense, en tout cas parce qu'elle est engagée elle-même dans sa vie privée, parce que je la connais depuis très longtemps, qu'on a fait plusieurs films ensemble et que j'imaginais pas le faire sans elle. J'ai vraiment écrit en pensant à elle. Pour que ça soit elle qui le joue, pour que ça soit elle qui l'interprète, pour que ça soit elle qui s'investisse. C'est le combat d'une femme, hein, qui décide d'aider la fille qui a été agressée par le personnage qu'interprète Bruno et qui ne veut rien laisser passer de ce qui se passe et qui va s'entêter pour que la vérité sorte, même si, sans dévoiler tout, la fille de Bruno dans l'histoire est très importante pour le fait que la vérité éclate. Voilà.
Oui, qui est joué d'ailleurs par une jeune comédienne dont c'est son premier rôle, qui s'appelle Sarah Pachou.
Sarah Pachou, que j'ai découvert en casting, parce que là, la gamine a 16 ans, elle a 16 ans elle-même, et donc j'en ai vu plein. Alors c'est étrange, Sarah Pachou, je vais le dire parce que je lui ai jamais dit. Elle m'a séduit sur une chose très particulière, c'est qu'elle avait fait un bout d'essai pour se présenter dans sa chambre, et au mur, il y avait un texte du bateau ivre de Rimbaud, et je me suis dit, c'est trop bien ça. Ça a compté beaucoup.
Elle s'en est pas rendu compte, mais c'est là qu'elle a signé son contrat, quoi, en fait.
Oui, elle le sait pas.
Mettez des poésies sur vos murs.
Comment tu le définirais, Quentin, toi, Bruno ?
Moi, je le définirais un peu comme un gros lourd quand même, parce que le mec, il met ça a un beau fouet, parce qu'il.
On n'est pas sur un méchant pervers, ou on n'est pas du tout dans ce style de personnage-là, malgré tout.
Non, c'est pas un pervers, mais c'est un mec qui pense que voilà, c'est open bar, quoi. La meuf le regarde, le sourit, j'y vais, quoi. C'est bon, il se pose pas de questions, quoi. Il y en a des comme ça, et il a des excuses.
Mais oui, il a des excuses. Sa femme l'a quitté, il vit tout seul avec sa fille. Je pense que sincèrement, le temps qu'il a été seul, il a rien fait pour refaire sa vie. Et quelque part, comme la petite commence à avoir un âge où on peut penser à autre chose, peut-être qu'il commence à se dire une nouvelle vie est possible. On n'a jamais parlé de ça. Mais
moi, je l'ai pas vu comme ça, parce que quand même, ce qu'il fait, c'est pas un truc de séduction. Tu veux vivre avec moi, tu veux m'épouser. C'est en gros, je te pécho, quoi. C'est un peu, je te pécho, je me frotte à toi. Enfin, il y a pas de séduction. Je veux dire, on sent pas qu'il veut s'engager dans une relation à long terme.
Ça, on sait pas. Il bascule. On va refaire tout le film, parce que
je sens que vous êtes parti dans la BM. Attention, parce qu'on a quand même le patron qui est arrivé. Le patron de l'usine est là. Il est avec nous, Laurent Bateau, qui nous a rejoint. Et ça, c'est la petite surprise du chef. Bonjour, mon cher Laurent.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Alors, vous pouvez continuer votre débat aussi, mais je voulais quand même qu'on dise bonjour à Laurent. Alors, ce patron, lui aussi, est dans le déni.
C'est pas vraiment dans le déni. Je crois au personnage de Bruno, je crois ce qu'il m'a dit. Et en plus, moi, j'ai une usine à faire fonctionner. Je me dis que s'il y a un problème, et si on bloque l'usine, et si on perd du temps avec des problèmes qui, d'après moi, n'en sont pas forcément, puisque je me rends pas compte de la gravité de la situation, je mets des gens au chômage.
Ça sent l'entreprise avant tout.
Ça à l'entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises sont très fragiles et que 24 heures ou 48 heures sans travailler, c'est dramatique.
Tu penses, Laurent, que toutes les entreprises ont une Louise ou pas ?
Oui. Ou un Louise.
Je pense, oui. Non, mais c'est vrai, je pense que toutes les entreprises ont leur grande gueule comme ça, justement, qui défendent leurs convictions.
Ah oui, je trouve qu'il y a toujours une grande gueule partout. Et c'est vrai que du coup, est-ce qu'on donne uniquement la parole aux grandes gueules ? Je suis pas d'accord. C'est-à-dire que les gens timides sont tout aussi importants que les grandes gueules. Et les grandes gueules, on n'écoute qu'eux, on n'entend qu'eux. Et finalement, parfois, on s'aperçoit qu'ils étaient trois grandes gueules, et alors que tout le reste est contre. Donc c'est pour ça que je donne pas tant de crédit à ça. Et je sais que la Louise, c'est quelqu'un qui gueule tout le temps. Je la connais depuis toujours. Je l'ai hébergée quand elle était jeune, elle a habité chez moi. Et du coup, je sais comment elle est. Donc je me dis, c'est un problème de plus à la Louise. Et je prends pas l'ampleur de la gravité.
Et c'est ça. Et justement, et le problème, c'est que ce problème pousse quand même la victime quasiment jusqu'au suicide. Et c'est la gravité, parce que on a tous entendu des histoires comme celle-ci. Ça pourrait être inspiré effectivement d'une histoire vraie, même si ça ne l'est pas. C'est une pure fiction, mais ça pourrait, en tout cas. Boomerang, on va retrouver évidemment sur France 2, on le disait, cette semaine. Merci à tous les trois. Merci Bruno, merci Laurent, merci Christian d'avoir été avec nous. Et Boomerang, c'est cette semaine sur France 2. Voici la bande-annonce.
Inédit, mercredi soir.
Tu m'embrasses pas avant de partir ?
Corinne Maziero se bat pour briser le silence.
Elle m'a tout raconté. Tout ce que tu lui as fait.
Mais Louise, attends. Tu me connais. Tu me vois en violeur, franchement.
Mais tu crois qu'on va croire qui ? Est-ce qu'on pourrait pas considérer deux secondes que peut-être elle a provoqué un peu Quentin ?
C'est peut-être juste un incident.
C'est pas un incident ! C'est une putain d'agression sexuelle !
Faut que je vous le dise combien de fois, j'ai rien fait, bordel.
J'arrive ! On va se battre avec Roxane. Pour Roxane, c'est ça qu'on va faire.
Face au déni et à l'indifférence, elle ne lâche rien. Boomerang, mercredi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Et on continue à parler de Syndrome E cette semaine, votre série sur TF1. Vous avez peut-être vu les deux premiers épisodes la semaine dernière. Si vous ne les avez pas vus, vous pouvez en tout cas attaquer le replay ou tout simplement vous faire la série d'une traite sur Salto également, puisqu'elle est disponible. Et cette semaine, eh bien, on va mettre en lumière le personnage de Clara Barsky qui est avec nous. Bonjour Bérangère Krief.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On est toujours heureux de t'avoir, Bérangère. On te soutient depuis longtemps dans tes rôles et sur la scène aussi. T'es une humoriste de talent et qu'on adore aller voir aussi sur scène, il faut l'avouer. Mais là, c'est dans un rôle beaucoup moins drôle hein, qu'on te voit dans cette série.
Oui, c'est un personnage qui change déjà. On est dans un autre registre puisque on est dans du policier, du thriller. Et puis, je suis lieutenant à la brigade criminelle, bien entourée par mes collègues. Et c'était une expérience toute nouvelle. J'avais jamais fait ça.
Alors pour ceux qui n'étaient pas la semaine dernière, l'histoire commence par une série de meurtres dont Franck Charcot va devoir faire la lumière, accompagné évidemment de Coulchen et de ton personnage, du lieutenant. Et évidemment, il va y avoir du paranormal, il y a du thriller, c'est adapté du roman de Franck Tillier également. Donc voilà, il y a une aventure assez incroyable qui se noue et plein de domaines différents qui sont explorés dans cette série.
Et au moment où l'enquête commence, on est un petit peu à la brigade criminelle. On sent qu'il y a eu une petite ambiance plus joyeuse et plus de bande, et que l'équipe s'est un peu dessoudée. Et tout le monde est un petit peu parti dans son coin. Donc il y a un peu une ambiance un peu électrique déjà en interne à la brigade criminelle. En fait, on va rentrer tout doucement dans cette enquête. Donc je crois qu'au troisième épisode, on comprend un petit peu que ça va. C'est pas si simple que ça comme enquête. Effectivement, il y a du paranormal, on comprend pas pourquoi. Donc les gens deviennent hyper agressifs, il y a des pulsions de meurtre et des larmes de sang, ce qui est quand même pas rien.
En voyant ce film des années 60 avec cette petite fille.
Oui, d'un coup, oui, quand les gens voient le film, ils deviennent très agressifs. Donc il y a toute une enquête, on est sur un... Enfin, je trouve que c'est une enquête... À plusieurs niveaux, à plusieurs couches. Donc du suspense. Enfin, pour moi, dès qu'on éteint l'épisode, on a envie absolument de voir celui d'après, même en ayant tourné dedans. Chaque fois, je me suis fait complètement happer par cette série. Et voilà. Et moi, mon personnage, elle va essayer de rassembler un petit peu ses copains qui sont un peu éparpillés, quoi. On a Franck Charcot qui est complètement en train de perdre pied, qui va se plonger dans cette enquête, mais corps et âme, presque au détriment de sa propre santé. On a le personnage de Coulchen aussi qui, lui, essaye de... Voilà, dit Maria, il a un peu envie de... Il voit bien que c'est un peu le bateau est à la dérive, donc il a un peu envie de secouer un peu le cocotier. Moi, j'essaye de rassembler un peu tout le monde. Il y a le personnage de Jennifer Decker qui arrive, Lucienne Bell, qui elle est complètement traumatisée par ce qui vient de lui arriver et qui est complètement obsédée par cette enquête.
Hallucinante, Jennifer.
Ouais, Jennifer, elle a une partition incroyable. C'est une actrice remarquable. J'ai trouvé que son personnage était pas facile à jouer, vraiment. Elle le joue hyper bien. Enfin, du début à la fin, elle le tient et ça, c'est une partition incroyable pour moi, Jennifer.
Compris qu'elle n'était pas la comédie française pour rien. On peut le dire. Alors, comment tu définirais Clara, toi ?
Clara, c'est une nana assez, j'allais dire, qui a une bonhomie, plutôt quelqu'un de sympathique, qui va toujours être empathique envers les autres. Elle aime qu'il y ait un esprit de troupe, qu'on soit tous ensemble. Elle déteste quand chacun fait son truc dans son coin, ça la rend dingue. Quand Jennifer, Lucienne Bell, arrive à la brigade, qu'elle rentre dans le comité d'enquête, elle va faire preuve d'accueil, en fait, elle va vraiment l'accueillir du mieux possible. Et voilà, elle est complètement empathique de tous les gens qui l'entourent et très dans le cœur. Donc ça, c'est un personnage qui me touche beaucoup pour ça. Et elle va être très éprouvée par l'enquête au fur et à mesure. Je vous raconte pas la suite parce que...
Non, on peut dire que dans les deux premiers épisodes, déjà, son empathie a été mise à rude épreuve. Hein. Je pense à la scène de la morgue. Il y a quelques petites choses comme ça. Quand on est spectateur...
Ouais, c'est vrai que la scène de la morgue, elle est pas mal. Je ramène toujours un petit ton de comédie, quand même, qui fait que c'est assez supportable. Mais voilà, ouais, ça démarre assez fort. Et ils vont se rendre compte quand même que c'est un sacré dossier, quoi.
Qu'est-ce qui t'a plu en premier quand t'as lu le scénario? Tu t'es dit quoi?
Bah, je me suis dit, tiens, c'est marrant, pourquoi ils ont pensé à moi? Et puis, j'ai lu... à la lecture, c'est pour moi très complexe comme écriture, parce qu'il y a énormément de détails, c'est une enquête. Enfin, j'étais très excitée par ce nouveau registre. Ce qui m'a vraiment convaincue, même si je l'étais déjà, c'est de parler avec Lorde Butler, la réalisatrice, parce que je suis très intuitive et que quand je dois faire quelque chose, je le sens tout de suite. Et en lui parlant, je me suis dit, bon, voilà, je sais que je dois faire ce projet, j'ai envie de rencontrer cette femme qui a l'air incroyable et qui a une énergie de dingue que j'ai envie de découvrir. C'était à la fois de la surprise, de l'excitation, et en même temps, je me suis dit, ça va être du travail, va falloir bosser.
On va te retrouver bientôt aussi en ce mois d'octobre, normalement dans Le Souffle du Dragon sur M6. Un très très beau téléfilm mis en scène par Stéphanie Pilonka. On te voit aussi dans Les Folies Fermières, le nouveau film de Jean-Pierre Méris qui vient de sortir justement en DVD, VOD en cette fin d'été aussi. Il y a vraiment voilà plein de belles choses en tout cas qui t'arrivent en 2022. C'est un peu ton année quand même.
Bah, j'aime bien moi.
Bah, tiens, et 2023, il se prépare quoi? Raconte-nous.
Bah, 2023, reprise de la tournée du spectacle. Dernière ligne droite pour ce spectacle. Les derniers mois d'exploitation du spectacle qui s'appelle Amour. Donc je serai en tournée dans toute la France. L'Olympia et le Trianon pour clôturer ce spectacle.
Ça s'appelle La Classe.
C'est cool, ouais.
Merci beaucoup Bérangère d'avoir été avec nous. Syndrome E, la suite, c'est donc jeudi sur TF1. Bientôt Le Souffle du Dragon également sur M6. Et Les Histoires d'Anouk aussi bientôt sur France 2, évidemment aussi. Merci beaucoup en tout cas à toi.
Merci beaucoup, à bientôt.
J'ai autre chose pour toi.
Un homicide.
Ceux qui l'ont tué lui ont volé son savoir.
Regardez qui est sorti de sa caverne. Ça fait deux fois qu'on la retrouve sur une scène de crime.
Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? J'espère que tu sais ce que tu fais avec elle. On nous a fait quelque chose dans cette clinique.
J'ai aucune intention de remuer tout ça.
Allez, on va parler de Demain nous appartient avec celle qu'on adore dans son rôle, qui était pestouille et qui est alors mais vachement plus tendre aujourd'hui. Clémence Lassalas qui joue le rôle de Charlie Molina. Bonjour Clémence.
Bonjour. Bonjour.
Que d'évolution, dis-moi.
Oui, que d'évolution, mais justement, on la trouve plus allégée, etc. Mais il faut se méfier.
Se méfier des apparences.
De l'eau qui dort, c'est-à-dire que bon, Charlie revient vite au galop. Enfin, le personnage un peu peste, on va dire, revient vite au galop. Donc là, pour l'instant, elle est très sympa. Et puis on verra la suite.
Alors là, je crois qu'elle a trouvé l'amour. Hein. Franchement, ça l'a vraiment apaisé. Et Pierre, je crois que pour toi, c'était quand même particulier, ça, quand on t'a dit que t'étais en couple avec Emmanuel Moir. Là, je crois que pour toi, c'était un choc.
Ah oui, bah ouais, comme... Bah, il le sait maintenant, il a bien compris parce que j'ai tellement dit ça dès le départ. Voilà, moi j'étais une grande fan de la première heure d'Emmanuel Moir qui était dans Le Roi Soleil et je fantasmais complet quoi sur ce beau mec voilà et étant jeune et voilà j'étais amoureuse de lui quoi genre. Je vais dire un truc, mais tu pourras pas le dire, je vais pas le dire. Je pensais que mon oreiller c'était Emmanuel Moir, quoi. C'était à ce stade. Non, mais ça, tu vas le dire après la honte. Mais
c'était un beau cadeau, en tout cas, ouais. De pouvoir tourner avec lui.
Ah ouais, non, mais c'est ce que je me suis dit. Je dis, ah, c'est bon, la boucle est bouclée, quoi. Genre, ça y est, genre, j'avais mon idée il y a 15 ans, et maintenant, ça y est, c'est fait, quoi.
Ce qui est chouette, c'est de voir aujourd'hui Charlie dans des intrigues beaucoup plus adultes aussi. Là, c'est une femme maintenant.
Ouais, et effectivement, bah, c'est ça que j'adore avec l'évolution que ça prend du fait d'être avec François. C'est que mon personnage devient beaucoup plus mature. En fait, je pense qu'elle veut être au même niveau que lui. Du coup, bah, même si bah, elle reste quand même, il y a quand même des parts d'elle qui sont encore assez jeunes filles, un peu gamines, etc. Elle essaye de se mettre à sa hauteur et du coup... vachement de maturité qui émane de cette relation et tant mieux parce que là vraiment Charlie c'est devenu une femme, c'est plus une gamine.
Et puis en plus maintenant, elle est belle maman depuis la rentrée. Eh oui, le fils d'Emmanuel Moir qui est arrivé. Et alors là, tout le monde a cru au départ que Charlie était en train de craquer dessus. Évidemment, le quiproquo qui s'est installé au lycée Agnès Varda était assez drôle quand même. Vous en avez beaucoup joué.
Oui, c'est pour ça que je dis qu'avec Charlie, il faut toujours se méfier. En fait, s'il y a un petit truc qui est gentil, qui est sympa, il y a toujours quelque chose d'un petit peu piquant qui va arriver derrière. Et ouais, justement, elle a rigolé de cette situation. Et c'est bien la preuve qu'il y a encore des parts de un peu enfantin, enfin gamin en elle, quoi. C'est que justement de faire ce genre de blague, de faire croire qu'elle sort avec Adam, alors qu'en plus son chéri est prof dans le même lycée. Enfin bon, bref, ouais, c'est elle se met elle-même dans des tracas, alors qu'en fait, bon, elle est pas obligée de faire ça. Donc voilà.
Elles sont beaucoup plus fragiles aussi quand elle a été agressée, par exemple. Femme d'affaires aussi, hein, cet été, mine de rien, avec la paillotte.
Ouais, alors ça, c'était génial à la paillotte, parce que ce qui était génial, c'était justement de pouvoir tourner avec d'autres personnages et de faire vachement de comédie. Et justement, tout ce qui lui arrivait derrière, les agressions, etc., de redescendre complètement de cette comédie et en fait tomber dans un truc très profond, très, très dramatique, et de voir que Charlie, il a quand même une autre facette et qu'en vrai, il lui arrive quand même des choses un peu pas cool, quoi.
C'est vrai, ça te laisse le temps de faire d'autres choses, Demain nous appartient ?
Pas du tout, je suis tout le temps sur le qui-vive, je suis tout le temps en tournage sur DNA en ce moment. En tout cas, là, c'est bien parti qu'à l'année prochaine.
Bon, on va te voir tout l'automne, là.
Oui, ouais, ça y est, il va y avoir des petites choses qui vont se passer. Si je peux spoiler un peu, les Moreno vont avoir une nouvelle maison.
Ah, enfin, ils vont sortir de l'hôtel.
Et on va sortir de l'hôtel et ça va amener beaucoup de comédie. Et beaucoup de, il va y avoir une petite guéguerre entre justement François et Charlie par rapport à cette maison, cette crémaillère qu'il va y avoir. Je vous laisserai regarder, ça va être très marrant.
On va suivre ça. Tu peux nous faire confiance. Merci Clémence d'avoir été avec nous. On te dit à très bientôt.
Oui, mais comme toujours avec grand plaisir.
Et Demain nous appartient, c'est du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1 évidemment. On ne rate pas. Merci à toi et à très vite.
Merci beaucoup.
Je savais pas que tu bossais là.
Je fais mes heures de travaux d'intérêt général.
Alors c'est pourquoi ta condamnation hein ?
Je me suis fait gauler sans permis, au volant d'une voiture volée. T'as rencontré la nouvelle ?
Franchement, un peu spécial, mais très cool.
En tout cas, si tu veux la draguer, c'est en dehors du travail, ok ?
On sait qu'Adrien Guérin est en cavale. Il se retrouve dans le parking Magnan pile au moment où Ventura se fait tirer dessus. Bah, ça en fait le témoin numéro 1. Il faut le retrouver avant le tireur.
Salut.
J'espère être croisé pour avoir des nouvelles de Benjamin.
Mais il va s'en sortir.
Alma, je sais.
Qui t'a tiré dessus ?
Ouais.
Allez, Miskina la pauvre, la spéciale dans un instant. Surtout, ne bougez pas, Mel Rabedia, mais également Anthony Marciano, Shirin Boutella, Victor Belmondo et Xavier Lacaille vont nous rejoindre. Miskina la pauvre vient de débarquer sur Amazon Prime. On en parle évidemment juste après cette petite pause. À tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Tiens, tiens, encore ton avis qui résonne dans les coins de mon esprit, mon cerveau qui comprend rien. J'écoute tout ce que tu dis, mais je sais bien qu'il faudrait lâcher les chiens. Souvent, tu parles pour ne rien dire, t'as raison tout. Tu crois ce que tu dis aux gens. Tu voudrais qu'on suive bien tous tes plans. Mais on s'en fout, tu comprends. Alors mêle-toi ton cul, ouais. Alors mêle-toi ton cul, ouais. Et je sais que c'est dur, ouais. Alors mêle-toi ton cul, ouais. Attends, personne t'a parlé, mais t'es à 100%. Quelquefois c'est tentant et on se croit intelligent. Et tu vois, parfois les autres ont pas vraiment besoin de toi. T'as pas à tout comprendre et c'est bien comme ça. Ce qu'on t'a pas dit, non ça te regarde pas. Ton ego trop maladroit, alors mêle-toi ton cul, ouais. c'est dur. Alors mêle-toi ton cul.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et notre coup de cœur plateforme cette semaine est consacré à Miss Kina, la pauvre, qui vient d'être mise en ligne tout juste le 30 septembre dernier sur Amazon. Et on a le grand bonheur de recevoir toute une partie de l'équipe en ce premier lundi d'octobre aujourd'hui avec Melra Bedia qui est avec nous. Bonjour Melra.
Bonjour tout le monde, ça va?
Oui, ça va. On a eu l'occasion de te voir cet été dans la très très grande classe, Course qu'on arrive aussi, dans ce joli film qu'on s'offrira bientôt en DVD, en VOD d'ailleurs dans les semaines qui arrivent. Et Anthony Marciano qu'on retrouve après le succès de Play avec Max Boublil. On a eu l'occasion de te recevoir. Anthony, merci d'être là aussi.
Bonjour, merci.
Alors, je crois que vous êtes un petit peu tous les deux les instigateurs, voire même réalisateurs. Enfin, vous avez quasiment tout fait sur cette série, hein, mine de rien.
Non, tout fait, on était quand même bien entourés par les cinq auteurs. Mais sinon, ouais, enfin, c'est beaucoup Anthony Marciano qui a réalisé et qui est très vite, qui a rejoint le groupe Pôle Auteur. Et du coup, ouais, il a bien suivi dès l'écriture, dès la fin de l'écriture, toute la série et toute l'évolution, quoi.
Comment l'idée est venue de la série? Qui c'est qui a eu l'idée de base?
C'est Melra avec Margot, la productrice, qui ont eu cette idée de faire une série qui ressemblait à Melra surtout et à ce dont elle avait envie de parler, surtout de pas faire une comédie comme on peut l'attendre, c'est-à-dire une promesse de gag à tout va, mais plus de creuser un personnage, son entourage, sa famille, ses amis, pour amener quelque chose de plus surprenant. Et moi, c'est ça qui m'a cueilli à l'écriture, c'est que c'était surprenant.
Parce que c'est vrai que dans cette série, il y a de tout. On a de la comédie, évidemment, où on rit aussi beaucoup par moments. Puis il y a des moments vraiment plus tendres, des moments d'émotion aussi, où Miss Kina nous emmène finalement.
Bah ouais, après c'est vraiment une volonté qu'on avait. Alors je sais pas si on a réussi, mais tout le monde nous le dira ou pas. Mais en tout cas, oui, on n'avait pas envie de faire une succession de sketchs ou de bonnes vannes. Parce que ça, on l'a déjà peut-être vu et on voulait se différencier un petit peu et essayer de creuser surtout un personnage qui est pas que drôle, quoi, qui a aussi ses travers, ses faiblesses, ses fragilités. Et normalement, avec Farah et toute la galerie de personnages, on voit bien qu'ils sont le plus sincère et naturel possible dans tout, que ce soit les galères et les bons moments, quoi.
Alors, pour planter le décor, tout commence par un mariage.
C'est toujours bon de commencer par un mariage. Oui, c'est le mariage de ma sœur Safia. En fait, moi, je stagne, j'ai 30 ans, rien n'avance, et il y a ma sœur qui, devant moi, est en train de me marier dans le pavillon familial. Donc oui, c'est une belle métaphore de toute la série qui nous raconte que bah pour ma sœur, elle, ça va, ça avance, et pour moi, bah c'est un peu au ralenti, quoi. C'est un peu au point mort.
Et dans tout ça, évidemment, la mamie qui veut pas assister au mariage.
Exactement, on a un...
très drôle aussi.
La mamie, bah c'est la mamie qu'on a tous à la maison, qui ronchonne un peu le dimanche et qui te fait un câlin le lundi, quoi. Voilà, c'est cette grand-mère là, et du coup, elle veut pas descendre, et c'est moi qui dois gérer, parce que c'est toujours Farah qui doit gérer les galères.
Alors, il y a un casting incroyable autour de vous. Victor Belmondo, qu'on va recevoir dans un instant. Xavier Lacaille, qui a une partition justement avec la mamie, qui est très drôle. Et puis, Chérine Boutella, qui joue ta sœur, évidemment. On va les recevoir tous les trois aussi dans un instant. Comment vous les avez choisis, justement, au casting?
Il y a aussi Hakim Djemili, qui est pas là avec nous aujourd'hui, mais qui...
Ah ouais, qu'on a eu dans Docteur, qui est extraordinaire aussi comme comédien, et qu'on a eu plaisir à revoir, effectivement.
Et écoutez, ça a été un casting comme on fait d'habitude, mais c'est vrai qu'on a cherché une logique dans cette famille et cet entourage pour que tout le monde n'ait pas la même partition, voilà, et surtout en comédie, que tout le monde soit pas sur le même rythme de comédie. Et c'est vrai que quand on passe de Hakim Djemili à Xavier Lacaille, on va avoir deux types de jeux, et Farah qui se retrouve au milieu, on trouvait ça hyper intéressant.
Alors comment on pourrait la définir, justement, Farah?
Farah, c'est vraiment la Miss Kina officielle de France, à savoir c'est celle qui essaye, à qui on demande beaucoup, qui a un peu tout sur ses épaules et qui n'y arrive pas parce que elle a une succession de galères à chaque fois, et dès qu'elle veut bien faire, ça prend pas, quoi. Donc voilà, c'est la Miss Kina officielle, et elle est touchante, et en même temps elle veut avancer, mais ça l'arrange aussi pas mal de pas avancer. Si on creuse un petit peu, elle a envie d'être là pour sa grand-mère et sa mère, mais elle a aussi envie de savoir où est son père. Enfin, elle se pose pas mal de questions. C'est quelqu'un qui s'éveille vachement à plein de choses, à savoir la spiritualité, à où est-ce qu'elle en est dans la vie, professionnellement parlant, sentimentalement. C'est quelqu'un qui essaie de se réveiller à l'épisode 1, quoi.
Alors, t'as réalisé aussi des épisodes? C'était tes premières réalisations? Ouais, après, même si Anthony a dû t'aider un petit peu quand même, hein.
Ouais, et vraiment, il m'a fait tous mes devoirs, hein, je vais pas mentir. C'est vraiment le camarade de classe qui me préparait mes réponses. Mais ouais, j'ai essayé, je m'y suis intéressée. En tout cas, j'ai essayé d'apprendre aux côtés d'Anthony, et il m'a laissé vraiment la place. Le seul truc, c'est que de jouer et de réaliser, c'est archi.
Ah là, c'est compliqué, ouais.
Quand je me suis rendu compte que ça allait être ça, j'ai dit à Anthony, écoute, tu fais quoi ce soir? Il m'a dit rien, et il est resté toute la série.
Non, mais j'ai fait ce que je savais faire et je laissais surtout faire ce qu'elle savait faire parce que elle a des propositions, 1000 idées à la minute que moi j'ai pas. Et ça, c'est hyper agréable d'avoir ça quand on travaille main dans la main avec quelqu'un.
Par rapport à ce qui était écrit, il y a eu un peu d'impro.
Bien sûr, quand on travaille avec des gens comme Elkha, il y a beaucoup d'impro.
Et aussi, ouais, franchement, je sais que j'adore l'impro, mais quand un réalisateur il me dit de pas en faire, j'en fais pas, par exemple. Et lui, il nous a laissé vraiment la liberté d'en faire, de proposer des choses différentes et tout. Et donc, pour le coup, parfois, ça se voit, il y a vraiment des trucs improvisés quand même.
L'impro, c'est toujours dangereux au cinéma ou en série, j'imagine aussi, mais parce qu'il faut que ce soit cadré. Il faut qu'il y ait un début et une fin. Mais une fois que l'intention est claire et qu'on sait où on atterrit, moi, je trouve ça hyper intéressant de laisser vivre une situation en impro.
Ça, c'est clair. Après, il y a dû y avoir des moments où t'as beaucoup ri derrière la caméra quand même en les voyant improvisant. Parce que, évidemment, le réalisateur s'y attend pas à ce qui se passe devant et où ils vont faire une proposition qui est pas forcément exactement le scénario.
Bah, on en a gardé beaucoup de ça, en masquant justement les rires qu'on avait nous derrière la caméra. On a gardé beaucoup de ça, des impros de Melra qui sont fantastiques et qui,
Je pense à une d'Hakim ou au mariage où il a laissé tourner Anthony et il a sorti la meilleure vanne du monde, donc elle est dedans.
Épisode 7, quand vous vous battez, il y avait des phrases qu'elle nous sortait. On explosait de rire derrière la caméra, on essayait de se contenir pour laisser.
L'épisode en Algérie, on s'est vraiment lâché. Je sais pas si c'était le soleil ou les tagines aux olives, mais vraiment pour le coup, on s'est un peu lâché là-bas.
Ouais, parce qu'en plus, on voyage avec cette série, c'est ça qui est bien.
On a voyagé exactement à partir de l'épisode 6 et 7, ça part en Algérie, à Oran exactement.
Quand on tourne pour une plateforme, justement, comme Amazon, on laisse une liberté totale.
Franchement, à l'écriture, on a eu une liberté assez rare, je crois. Et même sur le tournage, je crois qu'on était assez libre. Hein. Franchement, on va pas se mentir. Toi, t'as senti une gêne, quelque chose, une interdiction? Non, franchement, non, pour le coup, on était assez libre.
C'est assez rare d'avoir une liberté comme ça, en fait. Je sais pas si c'était prévu ou pas, mais on a été très libre.
Ouais, on a eu trop de liberté, même, je crois.
Bon, en tout cas, j'imagine que Amazon vous a dit, voilà, si ça marche. Est-ce que vous avez, vous, déjà, en tout cas, anticipé peut-être une suite? Est-ce que la saison 1 est fermée ou plutôt largement ouverte pour une suite?
Non, je crois qu'elle est largement ouverte. Après, on espère que ça fonctionne, hein, c'est normal. Mais du coup, on a déjà réfléchi à quelques arches de saison 2. On s'est tous vus entre auteurs, avec Anthony notamment aussi. Et on a réfléchi, on a quelques pistes en tout cas.
On va voir ça très vite, j'espère. En tout cas, c'est déjà en ligne depuis quelques jours. Et moi, je vous encourage, évidemment, si vous avez Amazon, eh bien, allez voir Miskina la pauvre.
Sinon, vous pouvez même vous abonner à Amazon le premier mois. Vous mettez votre carte bleue et le dernier jour du mois, vous enlevez la carte bleue. Comme ça, c'est un mois gratuit.
Voilà, exactement. Voilà, ta technique. Voilà, exactement. Merci pour la technique, Melra. Merci, en tout cas, tous les deux. On va écouter la bande-annonce et juste après, Victor Belmondo, Xavier Lacaille et Chirine Boutella nous rejoignent pour nos plus grands plaisirs. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci.
Ma vie, c'est un peu le bordel. J'ai pris 30 kilos, je suis Chantal depuis que j'ai 12 ans.
Parce qu'elle habite encore chez sa mère à 30 ans. C'est bien ça, c'est les tanguis que ça s'appelle. C'est pas attirant les tanguis.
Et sinon, c'en est où ton food truck?
Pour le coup, ça se décante, hein. Ça va, ça suit son cours normal. Hein.
Auto-sabotage.
Miskina, elle a jamais eu d'amoureux.
Elle, c'est ma préférée.
T'es pas habillée, toi?
Ah si, quasiment. Ah mais non, elle a pas du tout, là.
Elle va t'habiller.
La même que Kendall Jenner.
Il a dit Kendall Jenner.
Allez, on continue à parler de Miskina la pauvre. C'est notre coup de cœur plateforme cette semaine sur Amazon. Ça vient tout juste de sortir. Et on va continuer à en parler avec Chirine Boutella qui est avec nous. Bonjour Chirine.
Bonjour, bonjour.
On est très heureux de te retrouver Chirine. Merci d'être avec nous. Xavier Lacaille qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Xavier.
Bonjour à tous.
D'être avec nous aussi. Victor Belmondo également, qu'on verra bientôt d'ailleurs au cinéma dans un magnifique film qui s'appelle Arrête avec tes mensonges. Bonjour Victor, merci d'être là.
Bonjour, avec grand plaisir, merci beaucoup.
Alors, tous les trois, on va parler de vos personnages. On a planté le décor avec Anthony et avec Melra de ce mariage qui tourne un peu en pugilat, hein, le mariage de Safia. Ça tourne court, hein.
Bah oui, ça tourne court, avoir une grande sœur Miskina qui fait un peu que des bêtises malgré elle, malgré toute sa bienveillance et sa bonne volonté. Ouais, c'est un peu difficile parce qu'elle maîtrise pas les conséquences. Et ouais, ça va chambouler, mais en même temps, ça va révéler aussi pas mal de problématiques et ça va mettre Safia face à beaucoup trop de choses qu'elle va devoir assumer enfin.
Et on va découvrir ça au fur et à mesure de la série. Alors Damien, lui, il est aux prises carrément avec la mamie qui veut pas assister au mariage. Et là, c'est pas simple non plus.
Non, effectivement, il se retrouve un peu, par chance, parce qu'il c'est un mec qui quand même vit dans sa voiture, faut le rappeler. Et il se retrouve un peu accueilli dans cette famille qui est complètement loufoque, et il se lie d'amitié avec la grand-mère parce qu'il commence à kiffer un soap-opéra qu'il se met à regarder avec elle pendant toute la saison.
Oui, c'est très drôle, on a l'impression que c'est un peu une parodie des Feux de l'amour derrière qui tourne, c'est très très drôle à voir. Et puis, le marié, lui, dans tout ça, est un peu en panique quand même aussi.
Oui, en panique, ou en tout cas, il essaye de faire comme il peut et de trouver sa voie personnelle et de trouver sa place au sein de cette famille. Et vous allez voir qu'il finit par y arriver, je crois. Voilà.
Le personnage de Maxime. Qu'est-ce qui vous a plu dans le projet déjà? Et comment Melra et Anthony vous ont embarqué dans leur aventure, Chérine?
J'ai passé un casting, j'ai lu le scénario. Et en vrai, il y a eu quand même une espèce de connexion qui s'est faite, je trouve, moi, en tout cas, au casting, où il y a eu vraiment une complicité qui, je sentais, allait exister. Et à la lecture, déjà, la promesse était extrêmement intéressante parce que les sujets abordés, la façon dont c'est traité, les personnages aussi, qui sont déjà extrêmement bien écrits, extrêmement bien développés. Et moi, Safia, ça a été un très grand bonheur. J'adore son évolution, j'adore ses problématiques. J'ai adoré aussi partager l'écran avec ses super comédiens. Et la réalisation, enfin, Anthony Marciano est fabuleux, et Malha aussi apporte une très très belle énergie, très très généreuse, et on a beaucoup rigolé.
On va y revenir là-dessus, je suis sûr que vous avez des anecdotes à nous livrer. Alors toi, t'as dû avoir des scènes, Xavier, avec la mamie. Comment t'as fait pour te retenir de rire par moment? Parce que alors, même si elle rigole pas du tout, mais nous derrière l'écran, mais qu'est-ce qu'on rit?
Ouais, non, je me suis pas retenu de rire non plus, hein. Je t'avoue qu'on ne montre pas dans la série, mais elle s'appelle Zora, l'actrice, elle est extraordinaire. Elle est capable de te faire rire sans s'en rendre compte. Et tu peux ne pas t'arrêter, et elle est vraiment extraordinaire, et on a tout de suite, le duo a tout de suite fonctionné dès la première séquence. Et non, et globalement, effectivement, c'est Melra qui est, je pense, Melra qui est le socle commun et qui apporte beaucoup de générosité, beaucoup de rire, et qui pose le ton dès le début, quoi. C'est une série qui est pas toujours drôle par ailleurs, c'est une série qui commence par de la comédie et qui développe des arches plus dramatiques, et on a des acteurs comme, Victor ou Chirine qui sont très intenses, en fait, qui sont des acteurs très intuitifs. Et qui, à partir de situations pas que drôles, vont apporter une dimension mélancolique, nostalgique, et en particulier sur le personnage de Maxime joué par Victor, il y a une dimension super profonde, en fait, et il la joue avec une simplicité qui est indispensable. Et sans cette simplicité-là, on se pose 1000 questions, et lui, il nous enlève toutes les questions, et on accepte complètement son parcours, quoi.
Victor, comment t'as été embarqué, toi, dans cette aventure?
Moi, pareil, j'ai d'abord lu le projet, que j'ai trouvé super, à la fois drôle, à la fois touchant, empreint d'une grande sincérité. Et puis j'ai passé un casting et j'ai été retenu par chance, parce que j'avais très envie de faire ce projet. Ouais.
Alors moi, j'aimerais bien aussi que vous puissiez me définir vos personnages vus par vous-même, c'est-à-dire que Maxime vu par Victor Belmondo. Comment tu le définirais, toi?
Je le définirais comme quelqu'un de, encore une fois, très sincère, très pur dans son rapport aux choses et dans son rapport aux gens, et qui a besoin de se trouver et qui se trouve par la spiritualité.
Et qui est toujours là pour Safia, hein, quand même aussi. Damien, vu par Xavier.
Damien, il est un peu comme le personnage de Farah, c'est une vraie miskina, il est perdu, il cherche un cadre, il cherche une famille, il est extrêmement maladroit. Et il trouve, à travers une relation ambiguë, amicale, peut-être un peu plus que ça, avec Farah, une reconnaissance qu'il a peut-être jamais eue. Et pareil avec la grand-mère, je pense.
Et donc, du coup, Safia, vue par Chérine.
Safia, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle est chiante, mais laisse les gens tranquilles. Ouais, non, et en fait, c'est vraiment lâcher prise, quoi, qu'elle essaye de lâcher prise. Mais encore une fois, il y a quelque chose qui va pas, et elle l'a jamais accepté, et elle a jamais... Je pense qu'elle voulait pas le voir, et que elle s'est mis des œillères, elle s'est dit non, tout va bien, alors que pas du tout. Mais elle me touche énormément justement pour ça, parce que elle a des mécanismes de défense qu'elle a mis en place pour justement essayer de se protéger
d'elle-même.
Ouais, une carapace, mais pour se protéger d'elle-même. Et ça éclate, et c'est là où on voit qu'en fait elle était pas prête à fumer quoi que ce soit, parce qu'elle part complètement en cacahuète. Mais j'aime bien ce moment-là, parce qu'il est nécessaire de passer par ces moments-là de...
Sans que la relation avec sa sœur est compliquée.
Ouais, compliqué, mais en même temps non. C'est pareil, je pense qu'elle rejette aussi beaucoup sa sœur, parce qu'elle est plus conciliante avec elle-même, et sa fille est vachement exigeante. Donc alors que c'est sa sœur, en fait, qui va l'aider le plus et qui va vraiment lui permettre de passer à autre chose et de se retrouver et de se réconcilier avec elle-même.
C'est ce qu'on va voir tout au fur et à mesure de la série, justement, ces rapports entre ces deux sœurs et tous ces personnages qui vont graviter autour de Farah et de Safia aussi. Victor, un moment clé. Une scène particulière qui qui t'a marqué, qui reste ancré ou qui a peut-être un fou rire ou plus difficile à tourner ou qu'à rajouter des heures sup à la prod, ça ils aiment pas généralement.
Il y a eu énormément de fou rire, honnêtement, ce serait difficile de n'en retenir qu'un, même s'il y en a eu un.
Apparemment, il y en a un en commun. Hein.
Même s'il y en a eu un particulier dont on n'est pas forcément fier parce que ça a pas aidé Xavier qui avait une séquence importante à tourner. Donc, mais c'est vrai qu'il y a une, vous verrez, il y a une séquence qui n'est pas drôle normalement et il y a un des comédiens qui a, en fait, il devait y avoir un bruitage de chat de miaou rajouté en post-synchronisation et le comédien que je ne dénoncerai pas a décidé de faire le miaou en live en plein milieu de la scène, ce qui a fait qu'on a eu un grand fou rire. Personnellement, je m'en suis beaucoup voulu parce que Xavier a eu du mal à faire sa scène. Enfin, il a eu du mal. Il est fantastique dans la scène, hein, mais on l'a pas aidé, en tout cas, en rigolant. Et voilà, je retiendrai celui-là, je pense.
Donc, Xavier,
la scène que je retiendrai, c'était une scène de cascade où je suis dans une cheminée à l'envers. Et ça, c'était incroyable à faire. Et c'était super difficile, en fait. Je me rendais pas compte qu'être à l'envers pendant plus de 20 secondes, c'était aussi violent.
Est-ce que tu imagines maintenant ce que vit le Père Noël?
Bah ouais, je l'ai clairement, ouais, clairement. Après, il est aidé par quand même une petite bande de lutins, le gars.
Ouais, c'est vrai. Alors que toi, t'étais tout seul.
Ouais, tout seul, tout seul. Non, ouais, c'est assez. J'ai hâte que les gens voient cette scène parce que c'était assez. Ouais, j'étais très surpris par la gravité. La gravité, mais oui.
L'intensité, la gravité de la situation. Chirine.
Alors, moi, ce qui m'est venu en tête, c'est une comédienne qui s'appelle Aïda, qu'on voit peu, qu'on voit dans un seul épisode, mais c'est une personne, je pense, humainement, qui dégage quelque chose d'extrêmement touchant. Et il y a une scène où ça clôture un peu la période en Algérie, où elle me remet quelque chose et je la prends dans mes bras. Et ce moment, je pense que c'est tout ce que j'avais accumulé pendant les 2 jours en Algérie. Juste en parler, ça m'aimait beaucoup. Les 2 jours qu'on a passé en Algérie, en fait, ce câlin, ça m'a même dans la scène, ça se voit un petit peu, où ça m'a, je sais pas, ça m'a fait quelque chose et j'ai adoré tourner ce moment avec elle et c'est ce moment en Algérie.
Bon, il y a plein de beaux projets qui vous attendent aussi. Miskina la pauvre, ça vient de sortir sur Amazon. Victor, on le disait, tu seras bientôt à l'affiche avec Guillaume de Tonquédec dans Arrête avec tes mensonges, qui a été tourné d'ailleurs en Charente, à côté de Cognac aussi. Une belle aventure, je crois, un très très beau film qui a été ovationné au festival d'Angoulême, où on t'y verra bientôt. Xavier, des projets?
Bah, il y a l'écriture de séries. Moi, j'écris une série pour Canal+, qui s'appelle Terminal. On aimerait écrire la saison 2 de Miskina, et j'ai une autre série pour une autre plateforme. De projets en tant que scénariste là.
Génial. Chirine, Lupin, saison 3.
Lupin, tout à fait. Qu'on continue de tourner. Bon, je suis assez superstitieux, donc normalement il devrait y avoir des projets, mais un petit peu plus tard.
Merci à tous les trois. En tout cas, on va se requitter avec un petit extrait. Et n'oubliez pas, Miskina la pauvre, c'est dès maintenant. C'est sur Amazon en exclusivité où vous pourrez dévorer d'un coup tous les épisodes de cette première saison. À très vite.
À très vite, bisous.
Salut, merci beaucoup.
C'est son premier ramadan.
Toi, t'as pas mangé ce matin, toi. Tu vas galérer de foudre du César.
Tu sais que le petit-déj, c'est le repas le plus important de la journée.
Je vais te faire la misère à Kippour, t'es pas prêt.
Machallah. Ça fait longtemps que tu le kiffes?
Je le kiffe pas du tout. C'est mon meilleur ami.
Non, parce que vous aviez l'air hyper connecté, toi et lui.
C'est bien ça le problème. J'avoue, depuis que je suis arrivé ici, j'ai un peu l'impression d'être Emily Ratajkowski.
C'est toi qui dois t'occuper de la famille maintenant.
Et toi, Farah, t'as quelqu'un?
Je calme un peu le jeu parce que je me préserve, tu vois, mais j'attends le mieux. Bah ouais. Bah ouais, t'as rien.
Lundi prochain, dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Ça sera une spéciale Darknet sur mer, la fiction qui sort sur Amazon Prime, avec Artus qui sera notre invité exceptionnel, Ariel Mallet qui sera aussi là pour Le Souffle du Dragon, avec Lola Devers, Julie Debonne, à toute l'équipe sera là à l'occasion de la diffusion du téléfilm événement d'M6 qui va vous être proposé. Et bien d'autres surprises, bien évidemment.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière. Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.